Bonjour à tous. Donc effectivement, l'enquête qu'on va vous présenter aujourd'hui est le résultat du travail de ce qu'on appelle le groupe EduDoc en Belgique francophone et de la commission bibliothèque du SUF. On a fait cette présentation lors d'une journée d'études au mois de mai à Jean Blou, et effectivement, on a été surpris parce qu'au-delà de la participation, on a eu un impact médiatique extrêmement important. On a vu débarquer les journaux nationaux, écrits, radio, télé, etc., avec un message qu'on n'a pas toujours contrôlé, parce que on peut dire ce qu'on peut aux journalistes, ils font quand même ce qu'ils veulent, et ils ont assez bien dérivé le message qu'on voulait présenter, en se centrant principalement sur compétences des étudiants face à Internet, ce qui n'était pas tout à fait l'objet de notre travail. Et on a vu se développer toute une réflexion dans les blogs un peu partout, en Belgique, puis en France aussi, et sur certains blocs, on nous a présenté comme une boîte de formateurs qui cherchait à avoir des contrats de formation des étudiants pour accéder à Internet. On nous a aussi trouvé toute une série de caractéristiques, des vieux bibliothécaires renachards qui souhaitaient vraiment se positionner leur vieille bibliothèque face à Internet. Je ne pense pas qu'on soit ni l'un ni l'autre. En tout cas, on ne vous vendra rien aujourd'hui. On veut juste essayer de voir effectivement quelle est la compétence de ces étudiants qui nous arrivent dans les universités, ce qu'on appelle les hautes écoles en Belgique, et se donner avec ça les moyens d'améliorer la formation qu'on leur donne.
Voilà, donc le point de départ est évidemment les recherches. Il ne fonctionne pas ? Vous m'entendez ? Si, non, il est branché, la petite lampe est allumée. Là. Ben bon. Ici, on peut presque le manger, tandis que l'autre... donc, c'était le point de départ, c'est évidemment les recherches en cours qui lient formation documentaire, bibliothèque et réussite dans les études. Et donc, on fait référence ici, entre autres, aux études de Coulon, de Line et autres. Je pense que c'est quand même des recherches qui restent de toute façon à confirmer. L'ère des pionniers... est un peu dépassé, donc il y a de plus en plus de formations documentaires, et on l'a encore redit tantôt. Je pense que l'idée est quand même d'aller un peu plus loin, mais de connaître la ligne de base. Donc les étudiants qui arrivent en L1, comme vous l'appelez chez vous, ils ont un certain nombre de compétences. Donc notre objectif était évidemment d'évaluer ces compétences, d'imaginer cette ligne de base, de mesurer cette ligne de base, pour pouvoir travailler de manière plus objective, en fonction de données précises. Alors, par rapport à cette ligne de base, évidemment, c'était de pouvoir faire des comparaisons internationales, et je pense qu'on peut faire aussi un appel ici à la formiste par rapport à l'évaluation de ces lignes de base au niveau français, et des mesures de rendement, évidemment, parce que connaître la ligne de base, c'est aussi pouvoir comparer le niveau d'entrée, le niveau de sortie, par rapport aux formations. Alors, nous nous sommes basés sur une enquête québécoise qui a déjà été présentée ici aux rencontres formistes, je pense en 2003, par Diane Mittermeier. Et donc, l'objectif de cette étude était de vérifier le niveau de maîtrise des connaissances de base en recherche documentaire des primo-arrivants. Donc, c'est vraiment cette cible-là, pour connaître leurs besoins et leur offrir des services adéquats, donc réellement en rapport avec leurs besoins. Disposer de données fiables, ce qui n'était pas le cas auparavant, par rapport à l'enseignement universitaire. Alors, ils ont une méthodologie qui est assez proche, enfin, nous avons repris assez fort la méthodologie qu'ils avaient, donc avec un public cible un peu différent d'une autre malgré tout, qui sont les étudiants qui accèdent à l'enseignement universitaire, mais uniquement à l'enseignement universitaire. Nous nous sommes élargis, 15 universités, 12 francophones, 3 anglophones, 40 000 étudiants concernés, donc un lot de 10% qui a été touché par l'enquête en juillet 2002, une enquête papier-crayon, et avec un élément motivationnel que nous avons également repris dans notre enquête à nous. Alors, le principe de l'enquête est basé, et donc on a vraiment travaillé avec le même matériel, sur les 5 étapes de la recherche documentaire, et ils ont, sur base de ces 5 étapes, que vous voyez dans le rectangle à droite, repris 5 thèmes avec 20 questions. Donc, l'identification des concepts avec 3 questions, stratégie de recherche, type de document, outil de recherche, exploitation des résultats, avec une zone de commentaires libre. Nous avons rajouté d'autres questions par rapport à notre questionnaire. Alors, nous avons décidé de travailler... parce que nous n'avions pas d'informations, donc il y a quand même un gros parallèle à faire avec l'enquête québécoise, vérifier les perceptions que nous avions au départ, identifier les lacunes et être à même de réaliser des comparaisons. Donc nous avons les données du Québec et au cours de l'exposé ici, on vous fera régulièrement des comparaisons entre leurs données et nos données pour les choses qui sont comparables. Et il y a une deuxième évaluation qui a été faite dans 6 pays européens dans le cadre de l'ENIL. Mais là, on ne dispose pas encore de résultats. Et donc, ça permettra de voir avec l'Autriche, l'Italie, Danemark, Finlande, Grèce et Suède les parallèles qu'on peut également faire avec leurs données. Alors, nous avons de notre côté élargi la problématique aux hautes écoles. Attention, les hautes écoles, chez nous, c'est l'enseignement supérieur non universitaire, Bac plus 3. Donc, ça n'est pas vraiment la même acception que vos grandes écoles. C'est même très différent. On a inclus également l'enseignement artistique dans notre échantillon. Alors, le point de démarrage, c'était au niveau du groupe et du DOC en janvier 2006, immédiatement suivi par la commission bibliothèque. Donc, je suis président de la SBLI du DOC et Paul est président de la commission bibliothèque du SUF. Et donc, l'idée était de mutualiser les deux activités, de travailler ensemble pour avoir une meilleure visibilité et pour pouvoir toucher plus un public plus large. Alors, on a travaillé sur base d'hypothèses, donc on a déterminé 7 hypothèses que Paul va... Je ne vais pas les lire ici parce qu'on va, au niveau de l'analyse, travailler hypothèse par hypothèse. Le principe, c'est vraiment... Notre point de départ, c'était de travailler sur 7 hypothèses, la première étant la comparaison avec les étudiants québécois, avec un certain nombre de pistes qu'on estimait être des pistes intéressantes. Alors, au niveau du questionnaire, nous avons essayé de garder vraiment au maximum le questionnaire original. Il y a ici quelques exemplaires du questionnaire que vous pourrez peut-être voir après, pour ceux qui veulent voir un petit peu comment il a été adapté, à quoi il peut ressembler. Donc, légères adaptations au niveau de la forme, parce que, bon, au niveau des questions, on a remplacé le mot Canada par Belgique, des choses comme ça, c'est vraiment des modifications mineures. Donc, on a vraiment essayé de garder au maximum, pouvoir faire un maximum de comparaisons. On a rajouté un certain nombre de questions qu'on appelle les questions liminaires parce qu'elles arrivent en début de questionnaire pour pouvoir répondre à nos hypothèses. Des questions qui portent, par exemple, sur la fréquentation d'une bibliothèque, sur le type de programme dans l'enseignement secondaire, donc le choix des cours qui ont été faits, qui permettent de quand même de tirer des conclusions relativement intéressantes. Nous avons travaillé avec un système de lecture optique de marque, donc lecture optique automatique, parce qu'on a quand même un certain nombre de questionnaires à relire, et donc on n'a pas les ressources humaines pour reprendre chaque questionnaire à la main, et donc je pense que la solution optique était plus pratique pour nous. Et nous avons débuté le travail en 2006, fait un premier test du questionnaire en septembre 2007, donc septembre pour avoir le même type d'étudiant qu'en septembre 2000, non, c'était en septembre 2006 le prétest. Petite erreur, vous corrigerez. Donc le prétest en septembre 2006 auprès d'une centaine d'étudiants, étudiants qui ont été interrogés pour évaluer le questionnaire et voir un peu comment ils réagissaient avec le questionnaire. On a fait quelques petites adaptations de forme, mais le questionnaire était assez intéressant pour eux. Alors, on a eu un accord de participation relativement important par rapport à l'enquête. Donc, c'est déjà une première satisfaction qu'on avait obtenue à ce moment-là, c'est qu'on avait une bonne réponse au niveau des institutions. 8 universités sur 9, donc là, c'était au niveau de l'université vraiment tout à fait acquis. Et au niveau des hautes écoles, on avait quand même 18 hautes écoles sur 26. Et donc ça, c'était vraiment une grande satisfaction, plus deux satisfactions, plus deux conservatoires, deux instituts supérieurs artistiques. Donc on a vraiment touché pas mal de domaines et l'École royale militaire qui était également intéressée dans l'enquête. Alors au niveau méthodologique, donc on a dans chaque institution, 31 institutions ou implantations, l'institution a désigné une personne relais avec qui nous avons travaillé directement. On a fait des réunions avec ces personnes relais. L'échantillonnage s'est fait sur base de listes alphabétiques où on avait pris un étudiant sur 5. Donc, c'est tout à fait aléatoire. Et on a utilisé la même technique dans chaque institution. L'enquête a été envoyée entre le 30 septembre et le 15 octobre chez chaque étudiant. Dans l'enveloppe, il y avait un courrier d'accompagnement du recteur ou du président de la haute école, donc élément qui incite l'étudiant à répondre au questionnaire, le questionnaire lui-même, donc les quatre pages ici, une enveloppe retour payée par le destinataire, donc l'intérêt ici, évidemment, c'est que l'étudiant n'ait pas à débourser le moindre centime pour participer à l'enquête, et l'élément motivationnel, donc la participation au tirage au sort du PCDEL qui a été tiré au sort le 16 novembre et remis un peu après. Alors, au niveau de la description de l'échantillon, nous avons envoyé 4388 questionnaires, donc c'est quand même déjà un nombre important. Une grosse part dans les universités, mais également dans l'enseignement haute école et enseignement artistique. Retour de 1868 questionnaires, donc un taux de réponse de 42% qui est tout à fait satisfaisant. Vous voyez ici le taux de réponse des Québécois qui est quand même supérieur, mais bon, ça n'est pas vraiment le même public puisque nous travaillons aussi avec de l'enseignement universitaire qui ont un peu moins bien répondu que les universités. On a validé dans cet ensemble-là 1715 questionnaires. Parce qu'il y avait des questionnaires qui ne concernaient pas les primo-arrivants, donc des étudiants qui avaient déjà un parcours dans l'enseignement supérieur, au moins une année dans l'enseignement supérieur, et trois questionnaires non valides, c'est-à-dire très peu, où manifestement l'étudiant avait envoyé le questionnaire uniquement pour gagner l'ordinateur, et donc ça se voyait très très clairement au niveau des réponses. Alors, l'âge moyen, 18 ans et 10 mois, ce qui est assez normal au regard du parcours d'étudiant, donc un étudiant qui rentre dans l'enseignement supérieur, qui a terminé son parcours secondaire, et avec, au niveau de l'origine, 93,20% d'étudiants qui viennent de la même communauté française, donc la partie francophone belge, avec 2,10% qui viennent de France, mais un échantillon trop restreint pour pouvoir tirer des conclusions. On espérait avoir une quantité plus importante, pouvoir vraiment comparer des étudiants qui avaient eu accès à la bibliothèque de façon plus structurée dans l'enseignement secondaire que chez nous, où c'est vraiment très très peu structuré. Voilà, au niveau de l'échantillon, au niveau de la structure de l'échantillon, vous voyez une forte représentation des sciences de la vie et une faible représentation de l'enseignement artistique, mais bon, ça représente le paysage actuel des étudiants en communauté française de Belgique. Voilà, alors...
Oui, donc grande satisfaction au niveau du nombre de personnes qui ont participé. On se demande si finalement ce ne serait pas le PCDEL qui aurait motivé un tout petit peu les étudiants. Notre première hypothèse, c'était que ce niveau de performance à notre questionnaire des primo-arrivants dans l'enseignement supérieur est très faible et qu'il n'est pas différent des étudiants québécois. Ben, qu'est-ce qu'il en est? Moyenne globale, 7,67 sur 20. Donc, on a quand même 3 étudiants qui font un 16 sur 20, mais il y en a aussi pas mal qui sont très bas. On peut le voir autrement, il y en a 92,8% qui n'ont pas ce qu'on appelle la SATIS, donc qui n'ont pas un 12 sur 20 à notre questionnaire. Donc, effectivement, le niveau de performance au départ, à l'entrée dans l'université ou dans les hautes écoles en communauté française de Belgique, est très faible. Il est même inférieur de 1,3 point à ce que les Québécois avaient observé. Alors, bon, effectivement, les Québécois, ils ont travaillé uniquement sur des universitaires. On pouvait se dire qu'il y avait une petite différence entre ceux qui entrent dans les universités en communauté française et ceux qui entrent dans les hautes écoles. Si on ne considère que ceux qui entrent dans les universités, la différence se réduit. Il reste quand même 0,84 points de différence avec les Québécois. Distribution pour ceux qui aiment les stats, parfaitement gaussienne et normale d'un point de vue statistique, hein, comme on le voit là-bas. Et alors, on a calculé quelque chose qu'on a appelé le taux moyen d'incertitude, c'est-à-dire la proportion de non-réponse ou de réponse « je ne sais pas ». Et ce taux moyen d'incertitude, il n'est pas faible puisqu'il s'élève à 12,23%. On a refait le même calcul à partir des données des Québécois et là, le taux est élevé aussi, mais plus faible que chez nous en communauté française de Belgique. Si on regarde maintenant autour des cinq thèmes que Bernard a présentés, là aussi on a des distributions parfaitement gaussiennes et on retrouve finalement le même classement. Les thèmes les mieux réussis chez nous en communauté française sont les mêmes que chez les Québécois. C'est exactement le même ordre, mais avec quand même des différences. Le thème le mieux réussi, c'est celui de l'identification des concepts. Mais bon, mieux réussi, il n'y a quand même que 53% de réussite pour ce thème-là chez nous. À peu près la même chose au Québec. Et puis, c'est les types de documents. Et les trois moins bien réussis, c'est ce qui concerne les outils et leur usage, les stratégies de recherche et l'exploitation des résultats. Et là, sur ces trois thèmes les moins bien réussis, on voit que les différences avec les Québécois s'aggravent, essentiellement autour de l'exploitation des résultats, où on a 14% de différence entre leur niveau de réussite et le nôtre, hein, nos petites têtes blondes, là, 26,6% de réussite pour le thème 5 exploitation, c'est quand même pas brillant du tout. Juste un thème où on est un peu meilleur que les Québécois, c'est type de document, mais ce n'est pas très significatif d'un point de vue statistique. Est-ce qu'il est identique ou non entre ceux qui entrent à l'université et non-universitaires? J'ai déjà lâché un petit morceau tout à l'heure. Effectivement, on va se rendre compte que non. Tout d'abord, les distributions sont parfaitement normales, donc on peut faire les stats là-dessus. Je ne vais pas chaque fois montrer la normalité, hein. On l'a retesté chaque fois que nécessaire. On constate que la moyenne des universitaires est ici à 8,13, et donc là on a un intervalle de confiance, hein, donc la vraie moyenne, si on n'était pas sur un échantillon, mais sur la totalité des universitaires, très probablement se situe entre ces deux bornes-là. Du côté des non-universitaires, elle est à 7,05 entre ces deux bornes d'intervalle de confiance-là. Donc, un T de student extrêmement significatif, donc la comparaison statistique extrêmement significative. La probabilité qui est indiquée ici signifie qu'on a une chance sur 10 millions que ce soit par hasard qu'on ait ces chiffres-là. Donc, bon, on peut quand même être assez sûr de ce qu'on dit. Donc, contrairement à l'hypothèse, le niveau de performance est très significativement différent. Les étudiants qui entrent dans les hautes écoles non universitaires n'ont pas la même compétence documentaire que ceux qui entrent dans les universités. Mais il faut quand même pas en tirer gloriole, hein, la différence, elle est quand même de moins d'un point. Donc, elle est significative, elle n'est quand même pas fabuleuse. On s'est dit, oui, mais cette différence, est-ce qu'elle ne s'expliquerait pas principalement par le niveau socioculturel de l'étudiant? Et le niveau socioculturel, on l'a estimé, comme la littérature le propose, hein, par le niveau d'études de la mère. Et là, force est de constater que, par analyse de régression multiple, cette différence ne s'explique pas par le niveau socioculturel, donc elle vient d'autres choses. Si on va voir un peu plus loin, qu'on regarde au niveau des cinq thèmes, on observe, tout est en rouge, la même chose, la différence entre les hautes écoles et universités est significative, chaque fois avec une probabilité qui est massive. On a été voir jusqu'au niveau des questions, et là, dans 13 questions, deux tiers des questions du questionnaire, la différence est aussi significative entre les hautes écoles et les universités. C'est un discours qui, chez nous, n'était pas facile à faire passer parce que ce qui est politiquement correct, c'est qu'effectivement, tout le monde, université, non-université, c'est la même chose, c'est les mêmes étudiants, il n'y a pas de différence, etc. Manifestement, si ceux qui choisissent les hautes écoles chez nous ne sont pas les mêmes d'un point de vue compétences documentaires que ceux qui choisissent l'université. Alors, on était voir un peu plus loin au niveau du socioculturel. Est-ce que, plus globalement, pour l'ensemble de l'échantillon, on a une différence liée au socioculturel? Effectivement. On le voit très bien sur ce schéma-ci. Je ne sais pas si on le voit de là tout au bout. Hein. On a niveau de la mère, niveau d'études de la mère, primaire non achevée, primaire achevée, secondaire inférieur, secondaire supérieur, supérieur type court, donc bac plus 3, supérieur universitaire tout au bout. On ne peut pas tenir compte de ceci parce que, comme on le voit, la marge est trop importante. En réalité, il y a trop peu d'étudiants dont la mère a un niveau d'études primaires non réussi. Donc, la marge d'erreur, là, elle est trop importante que pour en tenir compte. Pour le reste, on voit très clairement un lien, une augmentation de la performance en fonction du niveau socioculturel, donc du niveau d'études de la mère. Et on passe effectivement de 6,7 points de moyenne pour ceux dont la mère a un niveau d'études primaire à 8,5 pour ceux dont la mère a un niveau d'études type supérieur, type long. On a fait ce qu'on appelle un test post-hoc, c'est le test de Cheffer, pour voir effectivement là-dedans, dans le modèle, est-ce qu'il y a des éléments qui expliquent plus que d'autres cette différence. Et très clairement, c'est les deux parties qui sont là. Avoir une mère dont le niveau d'études est supérieur, que ce soit universitaire ou non universitaire, est ce qui se distingue le plus de tout le reste. Donc on a fait une dichotomie, on a mis d'un côté tous ceux dont le niveau d'études était études supérieures par rapport à tous les autres. Et là aussi, on voit très clairement, avec des intervalles de confiance qui sont repris ici avec les bornes, une différence tout à fait significative. Là aussi, une chance sur 10 millions qu'on se trompe en affirmant qu'il y a une différence entre les deux. Alors, notre fibre de mâle, évidemment, s'est réveillée et on s'est dit, mais est-ce qu'il en va de même pour le niveau d'études du père? Et on a refait le même test, on obtient les mêmes résultats avec, mesdames, une différence un peu moindre, 7,40 contre 8,08. Troisième hypothèse, finalement, cette compétence documentaire, est-ce qu'elle ne s'explique pas simplement par le fait d'accéder plus ou moins facilement à Internet et de manipuler Internet, Google, etc. Donc on avait dans les questions liminaires une question pour savoir s'ils ont une connexion Internet à large débit à domicile. Alors, chez vous, j'imagine que 100% des Français ont une connexion Internet à large débit à domicile. Ce n'est pas tout à fait la même chose chez nous parce que les coûts de connexion sont nettement plus importants que dans notre tout petit pays que dans le vôtre. Et donc, c'était quelque chose qui nous paraissait intéressant à étudier. Eh bien, première constatation, c'est que quand même, 94,2% des étudiants de l'échantillon ont une connexion Internet à domicile, ce qui est étonnant et ce qui va tout à fait à l'encontre d'un certain nombre de discours dans les universités qui disent on ne peut pas faire trop d'enseignement à distance, on ne peut pas faire trop d'utilisation de ressources Internet parce que nos étudiants n'ont pas tous accès. Pas tous, 94% pour l'ensemble de l'échantillon. On n'a pas fait la distinction entre universitaires et hautes écoles. Bien, on s'est posé la question de savoir si on pouvait encore faire de la statistique avec de telles différences et effectivement, après avoir demandé à des statisticiens le fait que notre effectif pour les non-internet était suffisant, qu'on a des distributions normales et qu'on a ce qu'on appelle l'homocédasticité des variances, c'est-à-dire qu'elles sont homogènes, elles se ressemblent suffisamment, on peut faire de la statistique. Et qu'est-ce qu'on observe? 7,68 pour ceux qui ont Internet à domicile, 7,56 pour les autres. On voit très clairement dans la boîte à moustache là-bas qu'il n'y a pas de différence significative entre les deux groupes. Donc, disposer d'une connexion Internet à domicile pour les étudiants en communauté française de Belgique n'a pas d'impact sur la performance documentaire telle qu'elle est évaluée par notre questionnaire. Là, on va, si on affirmait le contraire, on aurait 66% de chances de se tromper, donc on ne va pas le faire. Dans de telles conditions, voir s'il y a un lien avec le niveau socioculturel n'a évidemment plus aucun intérêt. Ces étudiants qui débarquent chez nous, dans l'enseignement secondaire qu'ils ont fréquenté, ils ont, certains, eu la chance de fréquenter une bibliothèque, plus ou moins. Est-ce que cette fréquentation a un lien avec la performance? Alors, première satisfaction, on la voit ici dans l'histogramme, c'est que le nombre d'étudiants qui disent n'avoir jamais fréquenté les bibliothèques pendant leurs études secondaires, 275, est moindre que ceux qui fréquentaient plus de 10 fois par an les bibliothèques. Ça, c'était déjà quelque chose de satisfaisant. Quand on compare le résultat en fonction de ce critère, on voit très très clairement le lien. Donc ceux qui ne fréquentent jamais une bibliothèque sont ici, de 1 à 3 fois par an, 4 à 10 fois par an et plus de 10 fois par an, il y a une augmentation du niveau de performance. On passe de 7,13 à 8,24 de niveau de performance. Et là aussi, le test statistique, la NOVA, l'analyse de variance, montre que l'effet est très significatif. Donc plus on fréquente une bibliothèque en secondaire, plus la compétence documentaire est renforcée. On le savait bien, enfin on s'en doutait bien, mais par rapport aux décideurs et aux autorités, ça peut paraître nouveau. Est-ce que ce niveau de performance est lié au choix de l'orientation d'études ou pas? Voilà la présentation. Les autres, c'est ceux qui étaient dans des orientations d'études qu'on n'avait pas prévues ou qui n'ont pas su choisir. Formation pédagogique, c'est les futurs instituteurs ou futurs enseignants du secondaire, sont ceux qui ont le niveau de performance le plus faible, avec en moyenne 6,9 sur un échantillon quand même significatif, 143 étudiants. C'est un petit peu décevant, mais bon, voilà, heureusement, et on le redira tout à l'heure, en communauté française de Belgique, la ministre a eu l'intuition, il y a quelques années, d'imposer pour ses étudiants une formation documentaire pendant leurs études. Maintenant, le ministre remet en question cette décision, mais peut-être qu'au vu de ces chiffres, il se posera les questions. Tout à fait de l'autre côté, ceux qui réussissent le mieux, c'est ceux qui ont choisi histoire philo. Un peu logique, probablement, des gens pour lesquels les sources, les documents ont une importance plus grande peut-être que dans d'autres. Les sciences exactes, on s'en doutait, se trouvent très haut également, et vous voyez, donc, où situent les autres. Hein. Je ne suis pas très fier des étudiants de psycho qui... C'est mon domaine, hein, et bon, 7,62, c'est pas terrible. Très significatif comme différence, donc le choix de l'orientation d'études est effectivement, significativement et fortement lié à la performance à notre questionnaire. Le temps mis pour accéder à l'enseignement supérieur, donc dit de manière non politiquement correcte, est-ce qu'ils ont doublé ou pas, est-ce que c'est lié à la performance? On a fait l'évaluation sans tenir compte des éventuels départs à l'étranger. Donc, dans un certain nombre de cas, chez nous, probablement chez vous aussi, entre les secondaires et l'université, les étudiants partent un an aux États-Unis, en Australie, etc., pour découvrir la culture et la langue. Donc, on a éliminé cette variable-là. Et on constate que près de, vous allez dire, 70% des étudiants ont finalement une scolarité tout à fait normale. Là aussi, c'est un petit peu inattendu parce qu'on entend beaucoup en communauté française dire que les étudiants redoublent beaucoup en secondaire avant d'arriver dans le supérieur. Bah, il y a quand même plus des deux tiers qui n'ont jamais doublé ni en secondaire ni en primaire avant d'arriver dans le supérieur, avec même dans quelques pourcents d'une scolarité avancée. Par contre, il y en a un tiers qui a doublé au moins une fois, et on a même eu quelques étudiants qui ont réussi à aller jusqu'à doubler 5 fois, en retard de 5 ans, par rapport à une scolarité normale. Bon, ces 5 ans de retard sont ici, ils sont très peu nombreux, vous voyez que la marge de confiance est très forte, on ne peut pas en tenir compte, de même que ceux qui ont 3 ans d'avance sur une scolarité normale, même 2 ans. Par contre, pour le reste, on voit que la pente est très claire. Ici, 0, c'est ceux qui sont parfaitement pas doublés, pas avancés. Et puis, un niveau de performance un peu plus faible. De nouveau, effet statistiquement très significatif. Le niveau de performance est effectivement lié au fait qu'on ait ou non doublé. Dernière hypothèse qu'on s'était faite, c'est, je ne sais pas si c'est organisé comme ça chez vous, mais chez nous en secondaire, les étudiants ont un certain nombre de choix d'orientation qu'ils peuvent faire qui se traduisent en options plus ou moins fortes. Considérez-nous qu'une option forte, c'était à partir du moment où l'étudiant en secondaire, dernière année du secondaire, a au moins 6 heures, de cours dans la même matière. On a regardé autour de mathématiques, sciences, langue ancienne, donc principalement en latin, en grec, et langue maternelle. Est-ce que c'est lié au niveau de performance? Le nombre d'étudiants qui ont choisi une option forte latin est faible, 3,3%. Okay, on s'en doutait un peu, hein, c'est en perte de vitesse très, très nette. 36% avaient maths fortes, 41% sciences fortes et 5% français fort. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, effectivement, ceux qui ont latin fort réussissent 1,19 points de mieux en moyenne que ceux qui n'ont pas latin fort, différence très significative. Maths, c'est encore plus net, la différence est plus faible, mais la signification, là, on est à 1 pour 1 million, chose comme ça. Sciences aussi, par contre, français, donc langue maternelle, la différence existe, mais elle n'est pas significative. Voilà un exemple de ce qu'on peut trouver pour les maths. Le nombre d'heures de maths qu'ils avaient en dernière année, il y a quelques-uns qui avaient 0 heure de maths, ils sont très peu à mon avis, c'est des cas très particuliers. D'autres qui allaient jusqu'à 9 heures de maths en dernière année du secondaire, on voit clairement, sans tenir compte de ces deux extrêmes, que la courbe montre que plus on a des heures de maths en dernière secondaire, plus le niveau de performance au questionnaire augmente, avec un niveau de signification qui est aussi tout à fait massif. On a introduit toutes ces données dans un modèle de régression multiple pour voir, en éliminant soit l'option forte maths, soit l'option etc., qu'est-ce que ça donne. Et on voit que c'est clairement l'option forte maths qui est la plus explicative du niveau de performance des étudiants. Et puis, c'est latin et langue maternelle rentrent dans le modèle. Donc, quand on a retiré l'effet de maths forte et de latin fort, alors c'est langue maternelle qui explique le résidu, donc une partie du résultat. Par contre, la science n'explique plus rien, probablement qu'il est couvert par maths dans le modèle. 42% des étudiants n'ont eu aucune option forte, donc ils ont dilué un petit peu leur formation en secondaire. À peu près 30% ont eu au moins une option forte. Et qu'est-ce que ça donne? De nouveau, plus on a, si on a au moins une option forte, on a un niveau de performance qui est nettement meilleur. Avoir deux options fortes, on augmente encore son niveau de performance. Ça aussi, ça va un petit peu à l'encontre d'un certain nombre de discours qu'on entend en communauté française de Belgique sur l'intérêt d'avoir des options fortes ou plutôt de disperser dans une multitude de cours. On ne s'attendait pas tout à fait à cela. Alors, on va venir maintenant un tout petit peu sur les thèmes et les questions. Je vous montre ici un graphique qui montre le niveau de performance question par question, classé par niveau de réussite. On voit que les moins bien réussis, il n'y a que 2,7% des étudiants qui les réussissent, et la mieux réussie, 88% de taux de réussite. De l'autre côté, en orange, on vous a mis le niveau d'incertitude, je vous rappelle, proportion de non-réponse ou de réponse je ne sais pas, et on voit des choses étonnantes, par exemple celle-ci, on y reviendra, très faible taux de réussite, mais quasi aucune incertitude. Ce qu'on a appelé l'illusion de compétence. On pourrait mettre une barre ici. Au-dessus, toutes les questions pour lesquelles le niveau de performance est de l'ordre de 30% maximum, à moins. Et puis, quelques questions où, manifestement, on n'a pas trop à se tracasser dans nos formations documentaires parce que ces acquis-là semblent effectivement présents suffisamment, en tout cas, lorsqu'ils entrent dans l'enseignement supérieur.
Ok, donc maintenant on va voir concept thème par thème les réponses aux questions. Donc le premier thème, c'est un thème qui évalue le choix des termes adéquats dans la recherche. Alors trois questions avec un faible niveau d'incertitude et un bon niveau de réussite, à part la question 4 pour laquelle il y avait le terme effet qui intervenait. Et donc je peux vous montrer par exemple cette question 4. Donc, vous devez effectuer une recherche dans une base de données en psychologie. Et donc, il y a dans les termes ici, les propositions, il y a le terme effet. Beaucoup d'étudiants choisissent soit la réponse 3, soit la réponse 4, qui est un mot vide de sens en recherche documentaire. Et donc, très clairement, c'était un effet perturbateur dans les réponses des étudiants. Alors, les résultats sont assez proches de ceux qu'on a observés au niveau québécois, donc de 26 à 34%, de 66 à 64%, de 68 à 62%, donc des résultats assez proches, et la même faiblesse dans la question 4 chez les Québécois. Au niveau du thème 2, donc il s'agissait ici des stratégies de recherche, donc une question bien réussie qui est la question numéro 2, je pense que c'est celle-là qu'on a mis en exemple. Il n'y a pas l'exemple ici. Ah, ici. Ah non, c'est la question 11. Donc, au niveau de la question 2, par exemple, ils avaient un certain nombre de possibilités. Le système ne répond pas, ne donne aucune réponse. Et dans les choix, il y avait un choix qui était le bon choix. Je n'ai pas utilisé les bons mots. Et donc, beaucoup d'étudiants, donc 72%, 72% d'étudiants estiment qu'ils n'avaient pas utilisé les bons mots et ce n'était pas le système qui était en panne, ce n'est pas l'ouvrage qui est prêté. Donc, très clairement, ils sont conscients à ce niveau-là. Par contre, au niveau de la question 12, où il s'agissait de parler de vocabulaire contrôlé, de thésaurus, le concept même de thésaurus était totalement absent. Et très clairement, avec un taux d'incertitude de 50%, il déclarait clairement que c'est quelque chose qu'il ne connaissait pas. Alors, au niveau des opérateurs booléens, on s'en doutait, l'opérateur « ou » et l'opérateur « et » sont peu connus. 26% pour l'opérateur ou 33% pour l'opérateur et, avec un certain nombre de propositions relativement fantaisistes dans le cas de l'opérateur et. Et pour l'idée de l'index de recherche, et là ici effectivement on a à main gauche, je ne vais pas y arriver. Donc on leur demandait la façon dont ils allaient trouver la réponse sur les documents sur J. Tolkien, donc pas J. Tolkien en tant qu'auteur, et peu d'étudiants ont imaginé qu'il fallait chercher, utiliser l'index de titre, et beaucoup nous répondaient index auteur pour la recherche, pour la réponse à cette question-là. Et donc on a pour cette question-là un faible niveau de réponse, donc on est ici à la question 11, moins de 20%, avec un faible taux d'incertitude. Thème 3, les types de documents. Alors, on a des revues et les encyclopédies qui sont des outils visiblement bien connus, avec des résultats relativement comparables à ceux des étudiants québécois. Par contre, même meilleur que les étudiants québécois. Au niveau de la spécificité de la revue scientifique, qui était vraiment un outil qui va être utilisé dans l'enseignement supérieur et qui est peu utilisé dans l'enseignement secondaire. Donc ici, c'est la question 20. Le taux de réponse est assez mauvais. Donc, parmi les énoncés suivants, identifier celui ou ceux décrivant bien les articles publiés dans les revues scientifiques. Et donc, il devait, donc c'est une réponse multiple, un choix multiple. Il devait déterminer quelles étaient les caractéristiques de ces revues scientifiques. Donc, on a peu de bonnes réponses pour cette troisième question. Confusion avec les revues, oups, j'étais un peu vite, confusion dans ce cas-là avec les revues classiques et même la presse générale. Alors, au niveau des outils de recherche, c'était cette fameuse question 1 où les étudiants ont un mauvais niveau de réponse. Donc, bonne réponse dans les cas des moteurs de recherche, donc c'est quelque chose qui semble bien connu. Métamoteur est quelque est un concept qui n'est pas du tout appréhendé par les étudiants, donc c'est la question 14, avec un taux d'incertitude de 60%, donc très clairement c'est le même phénomène qu'avec le thésaurus ici. Moins connu encore qu'au Québec. Fonction du catalogue, pour rechercher un livre, ça, les choses sont claires. Par contre, la méthode pour rechercher efficacement utiliser efficacement le catalogue, là, c'est moins évident. Et donc ici, il devait rechercher un article publié dans une revue. Et donc le taux de réponse ici est assez catastrophique. Et enfin, la question 1, avec un très faible niveau d'incertitude, puisqu'on a moins de 1%, et un taux de bonne réponse de 2,74%, donc qui est vraiment assez catastrophique, qui est mieux maîtrisé au Québec. Et donc, l'idée ici, c'était vraiment le concept de base de données. Si je dois faire une recherche dans une base de données, dans quel outil vais-je utiliser pour trouver la réponse? Donc, c'était quel outil vais-je utiliser pour avoir des informations récentes sur les jeux vidéo? Et donc, les propositions, c'est Yahoo, Google ou alors des émissions TV carrément. Donc, c'est vraiment, ça sortait totalement de leur concept. Et enfin, l'exploitation des résultats. Donc, on a, au niveau de l'ensemble, c'est vraiment le thème le moins bien réussi. Donc, pour l'ensemble, 26% de réponses et on est à 40% au Québec. Le rôle de bibliographie semble compris. Donc, qu'est-ce qu'une bibliographie? À quoi ça sert? Là, il n'y a pas de problème. Par contre, lire une bibliographie, donc la question 5, je vous montre. Bon, c'est un petit peu ardu pour un étudiant qui sort de l'enseignement secondaire, mais pour un étudiant qui est dans l'enseignement supérieur, ce genre de lecture doit être assez classique pour lui. Il doit pouvoir, dans ce cas-ci, déterminer quelle est l'entrée pour un article de périodique. Donc, en fait, ici, Il y a une notion d'éthique aussi qui intervient. Donc, il y avait deux choses. D'abord, évaluation de l'information pour les étudiants. 15% savent exactement comment évaluer l'information. L'ensemble des étudiants estiment que c'est la rapidité d'accès à l'information qui est un critère d'évaluation. Donc là, c'est un petit peu perturbant. On s'en doutait, mais de nouveau, c'est assez perturbant. Et au niveau d'éthique et droit d'auteur, donc, on leur demandait dans quel cas devez-vous citer vos sources. Seulement 14%, donc près de 15%, savent qu'il faut toujours citer ses sources. Donc je pense qu'on en a déjà parlé tantôt. On arrive à 27% au Québec, donc c'est de toute façon quelque chose qui est assez catastrophique. Alors, il y avait des commentaires libres, exactement comme on l'a fait pour les étudiants québécois, comme ça a été fait pour les étudiants québécois. Donc, on a eu 217 étudiants sur les 1715 qui ont rentré un commentaire, donc 12%, donc c'est quand même déjà quelque chose d'intéressant. Ils étaient 25% au Québec. Et donc, on a 8 étudiants qui espèrent gagner l'ordinateur. sur le reste, il y a plus de 50%, donc 56% qui ont un avis positif, dont un tiers qui estiment avoir pris conscience de leurs lacunes. Bon, c'est vraiment un aspect très important et on y reviendra dans les commentaires. Au niveau des réponses, on a un deuxième groupe qui est un groupe d'étudiants qui, par leur pratique, expliquent « donc je ne vais jamais en bibliothèque » ou « je n'utilise jamais Internet », etc., qui tentent d'expliquer la faible performance qu'ils attendent. Enfin, ils imaginent que leurs performances sont faibles et ils essaient d'anticiper ces faibles performances. Et alors, les grincheux, il y en a 17% qui ont... certains ont été jusqu'à dire qu'ils avaient perdu leur temps en remplissant le questionnaire. Et 4%, et bon, c'est très peu, mais estiment qu'en entrant dans l'enseignement supérieur, universitaire, non universitaire, ils vont enfin, ou ils vont devoir utiliser les bibliothèques. Donc, c'est quand même des étudiants qui ont fait une petite démarche intéressante.
Oui. Il y avait peut-être juste une petite chose là que vous n'avez pas eu le temps de lire probablement, mais dans les 23%, il y en a un certain nombre qui estiment que dans les bibliothèques, pour accéder à l'information, l'aide d'une personne suffit. Et donc vous êtes là pour ça, quoi. C'est quand même pas eux qui vont chercher, il suffit de pousser sur le bouton bibliothécaire et ils donnent les bouquins, ce qui est peut-être même qui traduit directement et qui l'injecte dans le cerveau, je ne sais pas. Donc, au niveau des conclusions, c'est clair, le niveau de performance, il est encore plus faible que les Québécois, ce qui nous laisse une marge de manœuvre importante pour la formation. Donc là, ça n'a pas toujours été bien compris par les journalistes, notamment. Ce qu'on souhaitait savoir, parce que certains nous ont dit, mais vous avez fait un questionnaire trop difficile pour les pauvres petits étudiants de 18 ans. Hein, c'est pas ça qu'on a voulu faire. Je crois que la CREPUC, les Canadiens, et nous, ce qu'on voulait faire, c'était dire quel est le niveau qu'on attend à l'université en compétences documentaires. Où en sont-ils? Et donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire pour arriver au niveau que nous estimons nécessaire? Et là, effectivement, donc, on voit qu'il y a un effort important. Il y a des facteurs qui sont favorisants, comme le niveau socioculturel, etc. On n'a pas grand-chose à faire là-dessus. Je ne me vois pas aller insister auprès des mères pour qu'elles fassent des études plus longues que ce qu'elles ont fait. Par contre, fréquentation d'une bibliothèque en secondaire a un effet significatif, on l'a vu, et là, c'est peut-être un discours politique à faire passer, notamment chez nous, puisque en secondaire, en fait, contrairement peut-être à ce qui existe chez vous, il n'y a pas d'obligation qu'il y ait une bibliothèque. C'est vraiment l'Institut qui va décider sur ses ressources d'en affecter à acheter des livres, à créer un espace qui est bibliothèque et à payer quelqu'un pour s'occuper de cet espace. Donc, évidemment, dans beaucoup de cas, cet espace est tout à fait délaissé et les ressources qui s'y trouvent, à part... les manuels de cours en quelques exemplaires, il n'y a pas grand-chose dedans, donc très peu d'accès de qualité à l'information dans ces bibliothèques d'enseignement secondaire. Avoir Internet, on l'a vu, n'améliore pas le niveau de performance, et on a vu qu'il y avait des différences en fonction des orientations, que les moins bien outillés, c'était justement ceux qui allaient devenir les futurs profs, et peut-être ceux qui allaient devoir apprendre à ces étudiants du secondaire à utiliser correctement les ressources informationnelles et documentaires, ce qui est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Bien. Sur quoi faire porter les formations? L'analyse pour aller beaucoup plus loin, mais on n'a pas trop le temps ici. En réalité, ce qu'on peut simplifier, c'est stratégie de recherche, exploitation des résultats et accès aux outils spécialisés. exploitation des résultats. On a vu tout à l'heure le plagiat involontaire, c'est un vrai problème dans les universités. Ben, ils ne savent même pas qu'il faut citer, il suffit de copier et c'est bon. Illusion de compétence, ça c'est un problème, je crois, auquel il faudra s'attarder. C'est que dans un certain nombre de cas, on va avoir difficile de les former parce qu'au départ, ils sont absolument convaincus qu'ils savent comment il faut faire, notamment dans l'utilisation d'Internet, notamment dans la critique de l'information. Vous allez me dire, ce n'est pas spécifique aux étudiants, nos enseignants, nos collègues, etc., ont la même illusion de compétence, en tout cas en Belgique francophone. On a vu un petit effet collatéral, c'est que le fait de faire passer à cet échantillon quiz, donc un petit questionnaire qui durait un petit quart d'heure, a permis un certain nombre de prises de conscience. On a quand même pas mal d'étudiants qui se sont dit, eh ben, je me rends compte que je ne suis pas tout à fait au point et que je dois faire un effort d'augmentation de compétences dans ce domaine-là si je veux réussir à l'université ou dans mes études supérieures. Ça fait plaisir. Alors, on peut aller beaucoup plus loin, on est en train de le faire au niveau des institutions, au niveau du découpage des sous-questions, etc. Mais bon, on ne va pas faire ça aujourd'hui. Une petite remarque, c'est que notre enquête a les limites d'une enquête. Essentiellement, on parle bien de connaissances. On est encore dans un autre domaine que les vraies compétences mesurées concrètement dans de l'exercice, etc. Quoi. Donc il y a sûrement quelque chose de complémentaire à faire à l'enquête. C'est un résultat intéressant, mais il y a sans doute d'autres choses à ajouter à côté. Et puis un problème qui n'est pas mineur, c'est quelles sont les attentes du monde académique. Ce questionnaire qu'on a utilisé, il a été fait essentiellement par des gens qui sont proches des bibliothèques. C'est notre représentation de ce que l'université, ce que les hautes écoles attendent comme compétences informationnelles. Je ne suis pas sûr que le monde académique ait les mêmes attentes. Et je crois qu'il y a même deux discours. Il y a le discours officiel. Hein, très, très, très sympathique, compétences documentaires, éviter le plagiat, critique de l'information, etc. Et puis, il y a réellement ce qu'on fait. Et de ce côté-là, je l'ai entendu tout à l'heure, c'est très flagrant chez nous. La plupart du temps, au niveau, vous appelez ça L1, L2, c'est du transmissif. Et l'attente institutionnelle par rapport à l'information, elle est excessivement faible. Et donc, il y a un gap qui est une discordance qui s'installe entre ce que nous, bibliothécaires, on essaye de faire comme formation et ce que réellement l'institution attend des étudiants. Je pense que là, il y a vraiment une réflexion à faire. À mon avis, ça dépasse même le L1 et le L2. Ça va aussi du côté maîtrise où un certain nombre d'enseignants, on a entendu ça dans la journée d'études, hein, un certain nombre d'enseignants considèrent que les étudiants sont compétents puisque eux, enseignants, pratiquent de la même manière pour trouver de l'information. Donc, il n'y a vraiment pas besoin de les former à quoi que ce soit. Est-ce que chercher dans Internet est suffisant pour faire ou atteindre un niveau universitaire? C'est une ligne de base qu'on a permis d'établir. Ce qui serait intéressant, c'est de refaire à peu près le même test en fin de cycle et de comparer les étudiants qui ont suivi une formation documentaire, ceux qui n'ont pas suivi une formation, pour voir si l'augmentation de compétences est significative et donc si nos efforts de formation ont réellement du sens. C'est ce qu'on disait au tout début. Bon, on a un certain nombre de personnes qu'on a remerciées, on ne va pas insister là-dessus aujourd'hui. Vous avez vu que la petite lampe, elle était éteinte. On espère qu'elle s'est allumée à plusieurs niveaux. D'abord, pour les formateurs qui ont peut-être des assurances sur ce qu'il convient de faire dans leur pratique de formation. Et là, chez nous, on va leur donner les résultats pour leur institution et donc ils pourront vraiment travailler sur les compétences de ceux qui arrivent chez eux. Aussi, un éclairage du côté des décideurs. Et là, on a quand même la satisfaction de voir qu'un certain nombre de chefs d'établissement, suite à l'enquête, nous ont contactés et ont demandé si on pouvait aller un peu plus loin et ont souhaité mettre en place l'une ou l'autre action. Satisfaction aussi de voir que 8 universités sur 9 en Belgique francophone ont participé à l'étude et ont accepté de signer le document qui introduisait l'étude et de payer, parce qu'une partie des frais était directement à charge de l'institution. Le dernier éclairage, ben, ce sont ces étudiants qui, par le petit quiz, ont pris conscience, se sont éclairés de savoir qu'il fallait utiliser les ressources documentaires s'ils voulaient réussir dans leurs études supérieures. C'était quelque chose d'important. Voilà, je vous remercie.
Questions ou des commentaires?
Ils sont tous assommés.
Ils ont faim. C'est vrai qu'on a un quart d'heure de retard. Hein.
Dire merci à la qualité de ce travail et des pistes que cela ouvre pour justement proposer des formations mieux adaptées, mieux ciblées sur les incompétences ou les faiblesses de nos étudiants. Effectivement, on rêve déjà d'un complément qui pourrait être de travailler sur l'attente institutionnelle et justement de creuser la question double, en fait, les représentations que les universitaires ont de leur de ce qu'ils attendent de leurs étudiants, hein, d'une part, et puis de fait de ce que les étudiants ont réellement besoin de maîtriser pour réussir leurs études, ce qui n'est pas obligatoirement la même chose.
Tout à fait.
Mais encore une fois, merci.
Je voulais demander si une étude a été faite aussi pour les enseignants de ce type.
Joker.
Joke. Ils sont affamés. Non, mais merci, parce que je trouve que c'est très éclairant. Ça apporte des éléments. C'est vrai que c'est toujours enrichissant, les résultats. J'ai entendu des demandes. Hein, est-ce qu'on aura le PowerPoint ?
Oui.
Oui, on aura le PowerPoint, vous pourrez retrouver les chiffres, etc.
Mais tu peux...
Oui, donc on a terminé un document de synthèse qui fait 20-25 pages sur l'enquête, qui reprend à peu près tout ce qu'on vous a dit ici. Il est officiellement disponible à partir de demain. Donc demain, on l'envoie à tous ceux qui ont participé à l'étude, aux directions, etc., aux ministres et à tous ceux qui nous l'ont demandé. Donc vous le trouverez sur le site du groupe EduDoc à partir de demain et aussi sur le site de la commission SIUF, peut-être avec un peu de retard parce que là, les commissions interuniversitaires, ça prend parfois un peu plus de temps que les groupes de travail et les ASBL. Et puis alors pour tous ceux qui seront avec nous à l'IFLA au Québec en août, ils auront aussi le document.